Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Il y a 60 ans, le 22 septembre 1960, le Mali accédait à son indépendance. Toute la journée, RFI vous fait revivre cet événement historique avec évidemment des témoignages, des archives sonores et de nombreux invités. 60 ans d'indépendance, l'occasion de retracer ensemble ces 6 décennies de Modibo Keïta, le père de l'indépendance, à Bandao, désigné hier président de la transition, en passant par Moussa Traoré, Amadou Toumani Touré, Alpha Condé et Ibrahim Boubacar Keïta. Comment le pays a-t-il géré son indépendance? Quelles sont les réussites, les échecs de ces 60 ans? On a envie de vous entendre, on vous donne la parole, appelez-nous 33 9 693 693 70. Et pour dresser le bilan et dialoguer avec vous, deux invités, Mohamed Amara, bonjour.
Bonjour, monsieur Gomez.
Enseignant-chercheur au centre Max Weber de l'université Lyon 2. Vous enseignez également à l'université des lettres et des sciences humaines de Bamako. On vous doit plusieurs ouvrages, Mohamed Amara. Je citerai « Marchand d'angoisse, le Mali tel qu'il est, tel qu'il pourrait être », publié aux éditions Granvaux. Bonjour Ibrahim Maïga.
Bonjour.
Chercheur à l'Institut d'études de sécurité à Bamako. Alors c'est un anniversaire qui survient dans un contexte pour le moins particulier, puisque le Mali a connu il y a un peu plus d'un mois le 4e coup d'État de son histoire. Une période transitoire va s'ouvrir dans quelques jours avec la prestation de serment du président de la transition, Bandao. 4 putschs en 60 ans, Ibrahim Maïga. Le poids des militaires dans la vie politique malienne est incontestable.
Ah oui, clairement, le poids, l'omniprésence des militaires dans la vie publique, dans la vie politique est incontestable. Il faut se rappeler que dès 1968, avec le premier coup d'État mené par un groupe d'officiers, à la tête Moussa Traoré et son comité militaire de libération nationale, signe l'entrée de l'armée sur la scène politique. Et pendant 23 ans, ce comité dirigera le Mali. D'abord en tant que comité, ensuite en tant que parti unique, l'UDPM. Mmh. Par la suite, on a aussi connu un autre coup d'État en 91, mené par ATT, Amadou Toumani Touré, qui reviendra au pouvoir en tant que civil en 2002, avant lui-même de connaître un coup d'État, le troisième au Mali en 2012. Et enfin, le dernier coup d'État que vous avez évoqué, qui a été perpétré le 18 août dernier.
Ouais, et finalement, en 60 ans, il n'y a qu'un seul président qui ira jusqu'au bout de son mandat, de ses deux mandats. Il s'agit d'Alpha Omar Konaré. On aura l'occasion, évidemment, de revenir sur ces différents coups d'État. Mohamed Amara, 4 putschs en 60 ans. À qui la faute?
Très bonne question. Je pense que pour faire vite, la faute principalement revient aux dirigeants, à l'élite dirigeante du Mali, notamment les politiques. C'est-à-dire que ils ont eu plus tendance à gérer l'éphémère que d'avoir des visions très claires sur comment résoudre les problèmes concrets et quotidiens des Maliens. La question de l'éducation, la question de l'emploi, la question de l'électricité, la question de la sécurité. Ce sont des questions qui n'ont jamais été traitées dans une perspective à long terme et qui expliquent un peu cette malédiction qui est le coup d'État qu'on n'arrive pas à conjurer. Et donc c'est une des premières explications qu'on peut donner à ces différents coup d'État, malheureusement. Ouais.
Alors, beaucoup d'auditeurs reviennent évidemment sur ces nombreux coups d'État qui ont rythmé l'histoire contemporaine du Mali. Aliou, bonjour, soyez le bienvenu.
Bonjour.
Vous êtes à Bamako, dans la capitale malienne, et vous souhaitez justement revenir sur ces coups d'État à répétition. Est-ce que vous diriez, comme Mohamed Amara, la malédiction des coups d'État?
Oui, bon, je le rejoins sur ce plan, c'est que c'est les hommes qui ont échoué, les politiques notamment, ce qui est la conséquence de plusieurs coups d'État, parce qu'en fait, on a toujours géré des situations à court terme, alors que dans une nation, il faut être futuriste, il faut être visionnaire, et aujourd'hui, on fait les frais. C'est pourquoi je dis, et je le répète, celui qui vient d'être nommé aujourd'hui, s'il ne travaille pas dans le long terme, on va être voué à l'échec. Et aujourd'hui, c'est pourquoi on n'a pas intérêt à ce que ça échoue cette fois-ci. Mmh.
Le Mali n'a pas tiré les leçons des précédents coups d'État. À chaque fois, le pays commet les mêmes erreurs.
Oui. Parce qu'au fait, quand vous regardez, comme il a si bien dit, je fais un peu économie de ce qu'il a dit, mais en fait, quand vous regardez un peu l'historique, c'est que chaque fois qu'il y a eu un coup d'État, lorsqu'on doit redémarrer, on n'a pas démarré sur des bases saines. Du coup, ça veut dire qu'on va être buté un moment au même problème. Les problèmes sont toujours connus, ont été toujours connus au Mali. Pourquoi on ne fait pas face? Je pense qu'aujourd'hui, il faut y faire face. Il ne faut plus regarder derrière. Il faut être futuriste. Il faut des hommes qui sont là pour le Mali et non pour leurs intérêts. Mmh. Même ceux-ci qui sont là aujourd'hui en train de gérer des affaires, s'ils confondent vitesse et précipitation, on va échouer. Hey. Et ils n'auront pas intérêt.
Aliou, les 12 prochains mois, voire les 18 prochains mois, on ne sait pas quelle sera la durée de la transition. Le Mali sera dirigé par un ancien militaire, secondé par un colonel à la vice-présidence. Est-ce que cette formule vous convient, Aliou?
Cette formule ne me convient pas. Moi, j'avais souhaité, et je le dis, j'avais souhaité un président civil. Bon, Banda, on peut considérer qu'il est civil, mais les militaires là, pourquoi avoir le vice-président? Qu'on n'a jamais fait cette expérience, elle n'a jamais marché au Mali. J'ai vu qu'ils veulent s'accaparer du pouvoir. Et puis ils ont été induits en erreur par les anciens vautours de l'ancien régime. Parce qu'au fait, c'est eux qui les ont soutenu que les militaires peuvent faire le reste du mandat de IBK. Je pense qu'il ne faut pas qu'on soit dans cette logique-là.
Bon.
Ils doivent se rendre compte que les mots sont connus hier, Assimi l'a dit. On peut résoudre ce problème-là au niveau de la défense du ministère de l'Intérieur. Pourquoi créer un poste de vice-président? On va les voir à l'épreuve, mais je pense qu'ils savent qu'ils ne doivent pas intérêt à l'erreur.
On va le voir à l'épreuve, dites-vous, avec un vice-président qui aurait tout du moins sur le papier plus de pouvoir que le président. Mohamed Amara, on parlait des coups d'État, on parle de l'omniprésence des militaires dans la vie politique malienne depuis l'indépendance du pays. Le choix d'un ancien militaire pour diriger la transition, est-ce un bon choix?
Alors, très bonne question encore. Bon choix, mauvais choix, je ne sais pas. Moi, je dis toujours que l'armée, ce n'est pas la jungle et que la politique ne résout pas tout. Ça veut dire quoi derrière? Que quel qu'en soit l'homme qui dirige aujourd'hui, en l'occurrence le colonel-major Monsieur Ndao, ce qui serait intéressant, c'est de trouver l'équilibre. Il est important aujourd'hui que tous les acteurs maliens, politiques, associatifs confondus, se retrouvent à partir de leurs compétences, de leur capacité à résoudre pour faire face aux enjeux, aux défis majeurs de notre société ou de nos sociétés. Le choix de Bandao, c'est un choix qui a été fait par le CNSP et les autres acteurs. Je suppose qu'ils ont compté, ils ont pesé le pour et le contre pour dire qu'il peut changer les choses. Mais toujours est-il la question qu'on peut se poser derrière, et c'est ce qui me paraît aussi central. Pour finir, c'est l'importance du rajeunissement de la société malienne pour faire face à ces enjeux qui sont sécuritaires, climatiques, la question migratoire, toutes ces questions-là qui restent en suspens, qu'il faut effectivement résoudre. Il ne s'agit pas d'avoir un militaire ou d'un civil, il s'agit d'avoir le leader, l'homme qui va conduire le Mali vers une sortie de crise en tenant compte des enjeux locaux et internationaux. Ça me paraît central.
Le 22 septembre 1960, le Mali accédait à son indépendance. Après l'éclatement de la Fédération du Mali, l'éphémère Fédération du Mali, Modibo Keïta devient le premier président du Mali indépendant. Sur la page Facebook de l'émission, vous avez été nombreux à souhaiter lui rendre hommage. Alors, on a évidemment rappelé certains d'entre vous. Bonjour Daouda.
Oui, bonjour Ouran.
Vous n'avez que 31 ans, c'est ce que vous disiez, hein, 31 ans, mais je dis que Modibo Keïta est le meilleur président que le Mali ait connu.
Oui, effectivement, et pour moi, quand même, c'est l'un des meilleurs présidents, je peux dire le meilleur président de tous les temps que le Mali ait connu. Parce que sous son régime, le Mali a connu sa gloire et son plein développement, avec plus de 200 usines qui tournaient à 100%, une vision très claire et bien définie pour un État. Et en plus de ça, c'était un instituteur. Donc vraiment, ça, c'est quelque chose vraiment à saluer, vraiment et à reconnaître.
Les voilà, usines tournaient, vous dites que les usines tournaient, effectivement, alors je n'étais pas là, moi, à l'époque, évidemment, c'était une économie nationalisée, toutes les usines étaient nationalisées. Est-ce qu'au final, ça a payé?
Oui, oui, ça a payé, puisque quand on voit, certaines de ces usines fonctionnent même de nos jours, ils sont là, ces édifices-là sont là. Il y a la sucrerie de Douagbougou à l'époque qui était là, qui nous permettait de nous ravitailler en sucre. Mmh. Aujourd'hui, on importe le sucre de part dans le monde.
Hey.
Voilà, donc il y avait la mine d'or de Kalana, beaucoup d'autres choses qu'il a fait.
Une quarantaine de sociétés et d'entreprises d'État ont vu le jour hein, durant les années Modibo-Keïta. Modibo-Keïta qui, très rapidement, après l'indépendance, se tourne vers l'URSS, vers l'Europe de l'Est. Il instaure un régime socialiste, il nationalise l'économie, Mohamed Amara.
Bien sûr, il nationalise l'économie et c'était un choix de société qu'il a opéré et qu'il faut lui reconnaître. Il a été quand même le père fondateur de la nation malienne et voire de la fédération au Mali. Ce choix, il s'explique aussi par un peu cette envie. Modibo Keïta, c'était un panafricaniste, hein, vous voyez. Donc c'était quelqu'un aussi qui avait envie de se libérer, en tout cas, du joug de l'ancien colonisateur, oui. En l'occurrence la France. Mm-hmm. Donc il y avait aussi cette envie d'être autonome, d'être indépendant. Ce qui est important à souligner là-dedans, à travers votre question, c'est plutôt Modibo a été un des rares présidents, il y a Alpha Oumar Konaré qu'il faudra citer, parce que vous l'avez dit, et un des rares présidents à remettre le Mali sur les rails. Et ça, après lui, ça a été ce qu'on a connu, les différents coups d'État, sauf avec sous Alpha Oumar Konaré. Et malheureusement, on n'a pas été capable, en termes d'héritage, de faire prospérer ce que Modibo a laissé, en termes d'apaisement social, en termes aussi de qu'est-ce que c'est le Mali, qu'est-ce que signifie le Mali, quelles sont ces différentes langues qui font sens, qui fait qu'on n'avait pas de problèmes comme on l'a aujourd'hui, qui étaient des problèmes entre communautés, qui sont des faux problèmes, parce qu'au fond, il n'y a pas de problème entre communautés, à travers le brassage culturel, à travers les mariages, à travers le partage linguistique. Et donc, c'est plutôt des instrumentalisations, des récupérations politiques à travers tout ça pour exister, malheureusement, qui ont mis le feu aux poudres. Et Modibo a su, en tout cas, maintenir le pays dans ce sens.
Mohamed Amara, je vous présente Abdoulaye. Il nous a contacté de Bankass, c'est dans le centre du Mali. Bonjour Abdoulaye.
Bonjour Monsieur Gomez.
Vous revenez sur un point très précis de la politique économique de Modibo Keïta.
Évidemment.
Eh bien allez-y, nous vous écoutons Abdoulaye.
Oui. Alors vraiment, depuis l'indépendance à nos jours, vraiment j'ai retenu une seule grande personnalité qui est Modibo Keïta. Et son bilan le plus positif pour moi était son bilan économique. Mmh. Et sur le plan économique, il faut vraiment préciser que le Mali était, on peut dire comme ça, indépendant.
Indépendant pour quelle raison ? Vous êtes nombreux sur la page Facebook à nous dire, sous Modibo Keïta, oui, nous étions vraiment indépendants.
Oui, on était indépendant sur le plan économique, parce que depuis... De 1960 à 1967. Et nous avons assisté à la création de plus d'une quarantaine de sociétés et d'entreprises nationales. Mmh.
Alors je pensais, Abdoulaye, que vous nous parleriez de cette décision, en tout cas vous l'aviez évoqué tout à l'heure au Standard, de cette décision de Modibo Keïta de retirer le Mali de la zone franc pour créer le franc malien.
Oui.
Bon, d'accord, Abdoulaye, merci. Mohamed Amara, justement, cette décision de rompre avec la France, de se retirer de la zone franc, c'était une décision qui avait été saluée par la population à l'époque.
C'était une décision qui a été saluée parce que, encore une fois, ça permettait de cheminer vers cette autonomie financière que les autres pays n'avaient pas, pour rejoindre la Guinée de Sékou Touré, qui a toujours le franc guinéen, par exemple. Modibo, il était un visionnaire, hein, je le disais autrement tout à l'heure, et ce qui était important dans ce qu'il a fait, c'était plutôt comment minimiser les risques qui étaient les risques de la gouvernance, entre autres, les risques d'explosion sociale. On a vu la rébellion dans les années 60, comment ça a été géré, la première rébellion du Mali indépendant. Donc il y avait ça. Et donc le fait de créer sa propre monnaie, d'avoir sa propre compagnie aérienne, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui au Mali, je pense que c'est quelque chose qui donnait un sentiment d'appartenance à une nation qui venait d'être née
qui venait d'être créé. Et ce sentiment d'appartenance à une nation, aujourd'hui, on l'a de moins en moins parce que l'État n'existe plus dans certaines zones, malheureusement. On ne voit pas l'État, on ne voit pas ce que c'est, au sens des services sociaux de base, au sens de la police, de l'armée, de la gendarmerie, je veux dire la puissance étatique.
En tout cas, Modibo Keïta sera renversé. Nous sommes le 19 novembre 1968. Le coup d'État est mené par le jeune lieutenant Moussa Traoré. C'est à ce moment-là le premier coup d'État de l'histoire du Mali. Abdoulaye, soyez le bienvenu, bonjour.
Bonjour, Juan Gomez.
Et vous avez encore en mémoire des souvenirs très précis des années Moussa Traoré.
Oui, Juan Gomez, franchement, chez nous, on respecte toujours les morts. Mais sur le plan politique, je me souviens très bien que le régime de Moussa Traoré fut vraiment le régime, hein, je ne dis pas l'homme, le régime. Vraiment son passage fut une des pages les plus sombres de l'histoire du Mali, et parce que c'était vraiment un régime dictatorial, hein, de la dictature vraiment militaire, donc avec le manque de liberté individuelle, le manque de liberté donc au sein de la population. Et je me souviens très bien, j'étais étudiant, on a basé franchement, hein, c'était des années de dictature, et surtout de cette dictature. Et n'a pas, si c'était au moins comme en Chine, en fait, la dictature pour développer le pays, n'a pas, voilà.
Et effectivement, aucune contestation n'était acceptée durant ces 23 ans qu'aura duré Moussa Traoré à la tête du pays. Ibrahim Maïga, comment expliquer que, au regard du parcours de Moussa Traoré, du témoignage à l'instant d'Abdoulaye, que aujourd'hui, en tout cas ces dernières années, l'image de Moussa Traoré a été réhabilitée?
Je pense que ce témoignage est très intéressant parce qu'il montre finalement que, contrairement à ce qu'on disait à l'instant sur l'échec de la classe politique qui explique en partie les coups d'État, que des coups d'État ont été menés contre des militaires eux-mêmes. Moussa Traoré était un militaire. Amadou Toumani Touré, bien qu'ayant laissé la tenue en prenant sa retraite, était aussi un ancien officier. Donc, on voit que c'est plutôt la faillite, finalement, ou l'échec d'une certaine façon de faire de la politique ou de gouverner le pays, plutôt que l'échec de la classe politique à elle seule.
Oui, mais en même temps, Mohamed Amara, ces derniers temps, Moussa Traoré, qui nous a quittés la semaine dernière à 83 ans, Moussa Traoré est devenu une sorte de vieux sage. On voyait la classe politique se rendre à son chevet, discuter avec lui de la situation du pays.
Reconnaissance liée à nos façons de faire société en Afrique et au Mali en particulier, qui consiste un peu à donner une place aussi aux anciens. Il y a cet aspect-là. Mais de façon plus approfondie, si on gratte, on se rend compte quand même, Moussa, un de vos auditeurs l'a dit, c'était l'homme autoritaire, au sens de, par exemple, les enseignants avaient 3 mois sans salaire, par exemple. Vous voyez, donc il y avait une certaine privation des libertés, de tout ce qu'on peut imaginer, qui expliquait aussi sa chute en 91. Et donc, il y a ce fait, mais il y a effectivement cette reconnaissance liée au fait qu'il a été un des chefs d'État du Mali, et qu'il a aussi celui qui a gagné quand même la guerre contre le Burkina Faso en 85. Il faudra pas l'oublier. Mmh. Donc, ça indulant aussi sur la force, en tout cas la puissance de l'armée sous Moussa Traoré, ce qui n'est pas le cas depuis 2012, malheureusement.
Oui.
Donc c'est ce qui lui donne un certain crédit, quelque part.
Oui, depuis 2012, l'État malien confronté à l'insécurité, à l'instabilité sécuritaire, on aura l'occasion évidemment d'en parler dans la deuxième partie de l'émission. Mohamed Amara, restez avec nous, évidemment. Ibrahim Maïga également. On poursuit ce dialogue avec les auditeurs de RFI dans 10 minutes, juste après le journal. 33 9 693 693 70. Dites-nous quelles sont les réussites, les échecs de ces 60 dernières années, et surtout, quel défi reste-t-il encore à relever pour le Mali? À tout de suite.